Le Grand Matin Été Sud Radio. Mon libraire en connaît un rayon. Avec Philippe Lecomte.
Mon libraire en connaît un rayon, c'est dans le Grand Matin Week-end avec un vrai libraire de quartier qui connaît par cœur tous ses rayons et il en a dans sa librairie. Bonjour Philippe Lecomte.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors forcément l'été, le libraire ne chôme pas. Hein. Vous lisez, vous recevez des tonnes de cartons pour bien sûr la rentrée littéraire qui commence déjà. On annonce, combien ai-je lu 524 romans, dont 336 romans français.
Oui.
C'est impossible de tout lire.
Non, mais il ne faut pas se faire de cette illusion-là. Mais il faut passer de l'autre côté de la barrière. Il faut se dire qu'on ne lira jamais tout et qu'on ne manquera jamais.
Mais comment vous faites votre sélection, vous, en tant que libraire, par rapport à votre...
C'est à la fois simple et compliqué. Simple dans la mesure où, si on connaît les auteurs, évidemment, on va avoir tendance à se plonger sur les choses qu'on connaît déjà. Et puis, on a, évidemment, toutes ces réunions qui ont lieu au mois de mai, au mois de juin.
Vous dites ça, les réunions, on sent que c'est plombant, non?
Non, c'est pas plombant. C'est à la fois... c'est un peu Noël, hein, pour nous. C'est le côté... on a des cadeaux, on va voir des gens qui ont envie de parler de leurs livres, qui, eux, sont sur la sellette. Pour une fois, c'est pas nous qui posons des questions. C'est pas nous qui donnons les conseils sur les livres, c'est eux qui doivent se vendre, mais se vendre au sens positif du terme, c'est-à-dire donner envie de lire ces livres, et c'est un grand moment. Donc la plupart des grandes maisons d'édition et des maisons de diffusion et de distribution font des réunions pendant ces mois-là pour nous donner un peu le goût de ce qui va avoir lieu dans les semaines à venir.
Alors avant de parler de notre poche, hein, comme à chaque fois, on continue sur la rentrée littéraire. Hein. Alors justement, vous avez eu le privilège de lire avant la publication, et un petit coup de cœur pour Civilisation, que vous écrivez comment d'ailleurs ?
Alors, avec un Z au milieu et un S à la fin.
J'imagine qu'il y a une explication.
C'est le nouveau Laurent Binet. Alors, c'est le Laurent Binet qui avait fait le HHHH, qui avait été adapté au cinéma, qui avait fait la septième fonction du langage. Tout ça a été sorti chez Grasset, puis ensuite en livre de poche. Et là, son nouveau roman, qui s'appelle Civilisation, est un roman qui est une uchronie. Alors, qu'est-ce qu'une uchronie ?
Uchronie.
Alors, uchronie, on est en dehors de la chronologie. Donc, faut pas avoir peur. La grande spécialité de l'uchronie, c'est les anglo-saxons qui se font peur en se disant qu'à Waterloo, Grouchy serait arrivé à l'heure. C'est-à-dire que le français serait arrivé à l'heure et que par là même Wellington n'aurait été battu et que Napoléon l'aurait gagné. Donc ils jouent à se faire peur comme ça.
On réécrit l'histoire avec des si en imaginant d'autres scénarios.
Donc on part d'un point réel de l'histoire et on fait bifurquer un peu plus à gauche, un peu plus à droite, de telle manière à changer l'histoire. Et là, Laurent Binet nous fait un régal. Il imagine, on sait à peu près que les Vikings sont passés au grand nord de l'Amérique. Il y a un certain nombre d'années.
Voilà.
C'est, je dirais, au début de l'an 1000, dans ces années-là. Et dans ces années-là, il imagine qu'une de ces grandes princesses vikings est descendue beaucoup plus bas. Et qu'elle est descendue presque jusqu'en Amérique du Sud. Et que par là même, elle a apporté ce qu'elle avait sous le bras, c'est-à-dire les chevaux, enfin c'est un peu des grands bras, et puis le fer, et puis aussi les maladies. Parce que l'un des problèmes majeurs qu'ont eu les Indiens quand les conquistadors sont arrivés, c'est que les maladies les précédaient presque. Et par là même, les pays étaient complètement désorganisés. Donc là, quand Christophe Colomb arrive, déjà équipés. Et comme ils sont équipés, Christophe Colomb ne pourra pas faire quoi que ce soit. Donc il sera coincé. Et comme il est coincé, ce sont les autres qui vont venir chez nous.
C'est ça.
Et donc on se retrouve avec des situations très singulières où, tout d'un coup, ce sont les Incas qui vont débarquer au Portugal et ce sont les Aztèques qui vont débarquer en France.
C'est drôle. Hein, ouais.
C'est très drôle parce qu'il reprend à la fois des événements historiques qui ont eu lieu, les conflits, la lutte entre les catholiques et les protestants, mais à l'aune de quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Alors, on n'est pas chez Montesquieu avec le persan qui débarque et autres, on n'est pas chez le Huron de Voltaire, on est tout d'un coup chez Binet qui, avec son goût de l'histoire, se permet de raconter une histoire différemment.
C'est ça.
Quatre parties dans un roman splendide, et je donne simplement une petite anecdote qui donnera envie à mon avis. Évidemment, les Aztèques prennent Paris et ils installent une pyramide au milieu du Louvre.
Oula !
Mais pour faire des sacrifices humains.
D'accord.
Voilà, c'est pas le même.
C'est drôle.
Non, l'architecte n'était pas chinois.
Bon, finalement, c'est peut-être pas plus mal que l'histoire ne soit pas réécrite autrement, non ?
Oui. Mais
c'est un peu cauchemardesque quand même.
Non, parce qu'il y a des moments très drôles, et puis notamment, il y a une rencontre assez amusante entre un monsieur qui s'appelle Cervantes et un certain Montaigne.
Ah, ça me dit quelque chose.
Oui, moi aussi.
Civilisation avec un Z et un S à la fin.
Chez Grasset.
Voilà, Laurent Binet. Un poche, alors,
un
dans
poche.
La
poche. Alors un poche plus ancien, dans un genre assez différent, d'une américaine qui s'appelle Lauren Groff. C'est un livre qui était sorti aux éditions de l'Olivier auparavant, qui est sorti en point depuis, avec toujours la même traductrice, puisque depuis le début, c'est Karine Chichereau qui traduit ses livres. Et Les Furies est un récit en deux temps. On est sur le success story. On a un homme, une femme, qui ont fait une carrière. Lui est devenu le plus grand dramaturge de son temps, alors pour x, y raisons qu'on verra dans la première partie. Et le récit est fait sur le principe que cet homme, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il expliquait à l'homme ou à la femme qui lui posait des questions que lorsqu'il avait rencontré sa femme, il était allé vers elle, il lui avait demandé de l'épouser, et elle avait répondu « bien sûr ».
Comme une évidence, en fait, c'est
oui,
ça, non ?
Mais le problème, c'est que cette évidence n'est pas tout à fait la réalité. C'est pas la réalité. Et comme c'est pas tout à fait la réalité, la deuxième partie nous permet de savoir. Il ne s'agit pas de... je dirais, de cadavres dans le placard, ni de sang partout. Mais ça fait partie de ces silences qui peuvent exister dans un couple, dont l'autre se... il s'y confine, enfin, il se confine à ce silence, il accepte ce silence. Il va pas plus loin, il va pas chercher plus loin. Mais en fait, derrière ce silence, il y avait des secrets qui sont pas dramatiques, mais des secrets qui auraient peut-être pu faire bifurquer le couple différemment. Ce qui fait d'ailleurs que cette absence de connaissance, ce silence... va avoir un rôle prépondérant à l'intérieur du livre.
J'aime bien comment vous dites ça. Vous donnez un petit peu, mais pas assez.
Un peu plus. L'intérêt majeur, par exemple, c'est que cet homme n'a jamais su que sa femme avait vécu en partie en France.
Ah oui, c'est pas intéressé à son passé, en
fait. Non, du tout. C'est-à-dire qu'il l'a prise telle qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle existe, elle est belle, elle est magnifique, elle est intelligente. Ça va être mon épouse, d'où elle vient, ce qu'elle était auparavant n'a aucune importance pour lui. Ça n'est pas méchant, ça n'est pas agressif, c'est simplement le côté, nous allons construire à partir de maintenant. Et nous allons construire, pas à partir de nos passés, mais à partir de ce que nous sommes.
En même temps, on est nombreux à pas forcément avoir envie de connaître le passé de l'autre, ex, les fantômes de l'autre, hein, quand on se rencontre dans une histoire d'amour normale.
Le problème, c'est le boomerang. Parfois, ça revient d'une façon douloureuse. Là, c'est pas tout à fait le cas.
Je sens que c'est un petit peu le cas quand même.
Hein. Voilà, bien sûr.
Donc finalement, on se rend compte dans ce roman-là que le premier personnage masculin, ce n'est pas forcément lui le premier rôle, mais qui se cache pas mal de choses dans le second rôle de
en
madame.
En fait, c'est une femme qui a écrit le livre, et le personnage principal est vraiment l'épouse.
D'accord.
Avec son passé, ce qu'elle a vécu, et notamment ce passage en France, assez surprenant, et qu'on n'imagine pas, évidemment, dans la première partie.
Voilà, elle nous donne des clés, je pense qu'il va... ça nous donne toujours envie, la façon de vous le raconter. Les Furies, explication de titre.
Alors, Furies, au départ, c'est le titre anglais est un titre qui mêle à la fois deux choses, à savoir, c'est le côté, je dirais, Fates and Furies, c'est-à-dire, c'est un peu le côté, les parcs et les érénies, c'est-à-dire, la façon dont le destin va vous être donné. Et donc, les furies, c'est la façon dont votre vie est déjà prédéterminée par ce que vous étiez. Et donc, l'idée, entre guillemets, de faire comme si le passé n'existait pas, c'est improbable et impossible.
Joli titre. Et toutes les références, bien sûr, mon cher Philippe, sur notre site sudradio.fr. À samedi prochain.
À samedi.
Grand merci.
Merci Laurence.